avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes, toutes ces petites saloperies, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une herbe, plus un animal, rien. Avec le Xerox 3000, dans ma vigne, il n'y a plus de brindilles. Moi, j'ai fait poser le lino dans la vigne. Vous voyez, dans la vigne, il faut mettre les patins.
Il a un malaise, le peignoir?
Ça tape, là, hein, d'un coup. J'ai une veignée.
Quelle malhonnête!
Vous étiez là?
Bah oui.
Je vous ai pas entendu entrer.
Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport au poil de vache. On n'entend rien.
Eh ben oui, ben écoutez, ça tombe assez bien parce qu'on va parler du glyphosate avec Corinne Lepage dans quelques instants. Bonjour à tous, je vous le disais, excellent week-end, CO2 mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes, oui, le changement, avec Éric Mainviel et Philippe Duclos à la technique, et assisté de Caroline Debray, c'est Christophe Humbert qui réalise l'émission. C'est comme une pluie sans fin. La vie est un miracle, l'écologie est un spectacle, eh oui, comme le reste. Nous regardons accoudés à la balustrade venir les mauvais vents, les marées du siècle, les animaux dans le rouge, les forêts rabotées, les eaux champagnisées aux métaux lourds, l'air a un peu de mal à respirer et la société est toujours un grand casino. Oui, bien sûr, on bouge, on se mobilise hein, quand on ne veut pas de barrages, d'éoliennes, de pesticides, de loups, de gaz de schiste, de pas de ça chez moi. Et qu'on est aussi pour donner un grand coup de pied là où je pense, aux fossoyeurs de la planète. Pourquoi s'intéresse-t-on en fait si peu à notre maison, notre icos, notre vaisseau? Tu t'y intéresses toi, l'oiseau migrateur, à l'écologie? D'assez haut. Les humains m'inquiètent quand même. Leur lumière dévie mon plan de vol et dérègle leur âme. La lumière, c'est l'énergie, c'est le commerce, c'est la vie, il n'y a pas à en sortir. Siècle des Lumières, qui n'éclaire plus exactement la nôtre. Surtout si le siècle des Lumières devient facultatif dans les nouveaux programmes de l'éducation nationale, merci. Et toi, la baleine? Eh ben avec mon sourire de 50 millions d'années, ma peau de soie huilée, mon énergie de velours, j'irai toujours dans le sud, dans le lieu de mes amours. Je porte mon chant à des centaines de kilomètres, vous savez, en rappelant que les civilisations, la civilisation, s'est édifiée sur le dos des cétacés. Donc, à Sea Shepherd, eh bien, j'ai adhéré. Et nous, dans nos nids, nos terriers, nos gîtes de printemps, nos airs, on soigne notre intérieur, notre lieu de vie. On nettoie, on vide, on ne prélève que le nécessaire. Doit-on continuer à faire de la musique sur le pont d'un navire qui cogne à la porte de l'iceberg? Ah, alors là, objection, votre honneur, hein, même pas vrai. Eh ouais, non. Les glaces de l'Arctique font tellement vite que vos bateaux ne pourront plus s'y fracasser. Et voyez que le réchauffement climat titanique peut avoir du bon. Ah oui, il faut voir les choses quand même du bon côté. À la recherche du point de croissance, l'homme qui murmurait à l'oreille du PIB, Indiana Dow Jones, l'homme en fait décaisse, tape dans le capital, la terre encaisse en relisant les fleurs du mal. Alors c'est pour cela que le temps des indigènes nous étonnera toujours, oui, parce qu'il n'est pas employé à produire, mais à vivre. Ah, on a beau lire Terre sauvage, vous savez, nous ne sommes pas des indigènes. Ouais. La vérité, ça tue les gens. On n'aime pas la vérité. Alors on tourne autour, on euphémise, on développe durablement pour ne garder que le développement. Heureusement, au-delà de la vente des rafales qui nous réjouit le cœur, l'art, les jeunes, les mouvements diffus, mais bien réels, les collectivités éveillées, l'envie de tourner la page, notre libre arbitre pour compter le monde différemment, notre envie laboétienne de ne plus mettre genou à terre devant les puissants, ben voilà, voilà nos gilets de sauvetage. Le joli mois de mai toujours renaît, le muguet, le lilas blanc dans nos vies, nous porterons des petits bonheurs, ben croyez-moi, puisque je vous le dis.
CO2 mon amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Alors, 3, 4.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Aujourd'hui, j'ai vraiment de quoi être fier. Justement parce que c'est mon anniversaire.
Mesdames, messieurs les auditeurs, Denis Chessou à son âge aujourd'hui. Bon anniversaire, Denis. Et ben voilà, et ben merci, oui, ça tombe le 9 mai, c'est voilà, un petit route, c'était pas prévu, hein, c'était évidemment.
Ben non, c'était pas prévu.
Ben non, fort heureusement, merci mon bon Frédéric Noé, merci à. Christophe Imbert, alors vous dire que dans ce sommaire, qu'est-ce qu'il y a ? Donc une pointe de glyphosate, il y aura Monique Barbu, que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être, elle est secrétaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et elle va nous faire le lien très intéressant entre réchauffement, désertification, pauvreté, et aussi migration et terrorisme. Nous aurons un beau bouquet de lilas avec Jean-Marie Pelt, le portrait d'une jeune femme très bien de 26 ans, qui aujourd'hui est au Conservatoire du Littoral. Je l'ai rencontrée à La Rochelle. Elle nous racontera son histoire. Et puis donc, cette actualité avec vous, cher Frédéric Danhé. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour Denis Gessler. Voilà.
Alors Frédéric, donc avec nous, ingénieur en environnement, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date qui marche bien, Cessons de ruiner notre sol. On pourra revenir d'ailleurs sur le sol tout à l'heure. On va faire un petit tour, tenez tout de suite, dans l'actualité du côté de la Guadeloupe. Nous y étions donc il y a deux semaines, grâce à nos amis du Terra Festival, les fans du Terra Festival. Festivals qui sont celles qui font bouger, on va dire, l'environnement, avec quelques hommes quand même, là-bas en Guadeloupe. Et l'actualité, dans la venue évidemment du président Hollande, c'est aussi les fameuses sargasses. Alors les sargasses, qui en veut de mes algues qui ne sont pas forcément complètement vertes? Où en est-on donc sur ces sargasses? Parce que là, ça commence à s'agiter quand même beaucoup, parce qu'elles arrivent en masse, ce sont donc des espèces invasives.
Et elles arrivent en même temps que le président, il n'y a pas de corrélation, ce n'est pas lié du tout. On en parle parce que le président a posé ses pieds non pas dessus, car évidemment on a bien nettoyé les plages pour son arrivée. Des plages qui, notamment à Marie-Galante, une île magnifique, sont totalement souillées à tel point que plus personne ne va à la mer sur cette belle l'île de Marie-Galante, notamment à Capesterre. Les sargasses, les navigateurs les connaissent parce qu'il y a une mer des sargasses qui, paraît-il, selon la légende, les anguilles s'y reproduisaient, ouais. Et puis surtout ça empêchait les bateaux de circuler. Bon, c'était surtout le fait qu'on était dans le fameux poteau noir, zone située sous l'équateur où il n'y avait pas de vent. Là, on a une invasion depuis 2011. Et cette invasion, on sait d'où elle vient. Elle vient d'une nouvelle petite mer des sargasses qui est apparue au nord-est du Brésil, quasiment devant le débouché de l'Amazonie. Donc on suppose que la déforestation a entraîné une érosion des sols. Laquelle érosion des sols aurait enrichi la mer devant l'embouchure de l'Amazone avec beaucoup de phosphate?
Parce qu'on va rappeler que lorsque l'on dégage évidemment les forêts, ça va être pour faire des champs de soja,
transgéniques par exemple.
Donc là, c'est pas le cochon.
Le cochon breton n'y est pour rien.
Mais le soja permettra de nourrir le cochon breton après, c'est ça qui est.
Et ben voilà, tout est lié, Denis. Donc des phosphates, des nitrates, il se produit ce qui se produit partout dans les rivières et dans les étangs, c'est-à-dire une eutrophisation, pareil pour les algues vertes en Bretagne, c'est-à-dire un enrichissement de l'eau en engrais dit naturel. Donc les sargasses poussent et elles sont poussées par un système contraire de courant jusque sur la Guadeloupe, jusqu'en Martinique, jusqu'aux Antilles. Tout le monde s'en fichait royalement jusque-là. Mm-hmm. Les élus martiniquais et guadeloupéens ont essayé d'alerter vainement la métropole, qui s'en moquait royalement. Depuis la métropole, de toute façon, les Antilles, ça n'existe pas, ou si peu. Le président est arrivé, donc qu'est-ce que le président va proposer? J'ai regardé dans les propositions, c'est d'aller d'embaucher des gens, des jeunes notamment, pour aller chercher à la fourche ces algues.
Donc, c'était des postes de ramasseurs d'algues.
Et ce n'est pas fini. Peut-être, j'ai vu ça tout à l'heure, d'employer des dameuses. Dameuses de ski qui, paraît-il, seraient souveraines pour aller chercher les algues sans abîmer le sable.
Et puis derrière tout ça, on va peut-être essayer de valoriser ces fameuses algues, on va transformer...
Comme pour les algues vertes, ça fait des années qu'on en parle, et en Bretagne en tout cas... Oui, effectivement c'est possible, sauf qu'il y a 80% d'eau et beaucoup de sel, donc il faut faire sécher ensuite, dessaler ces vilaines algues pour en faire éventuellement du méthane, pour en faire éventuellement du bioplastique, c'est toujours les mêmes rengaines, c'est toujours la même chose... On voit pas grand-chose venir. En tout cas, ce qui est de désolant, c'est qu'une île magnifique comme Marie-Galante est devenue un dépotoir à algues.
Bon, en tout cas, nous saluons nos amis à la fois de la Martinique, de la Guadeloupe et aussi de la Réunion. Et puis, on fera une émission d'ailleurs sur les territoires... Les terres australes bientôt.
C'est la France aussi.
Bien sûr, c'est tout ça, avec 6 heures de décalage donc en moins pour eux. C'est le matin. 9 mai, Frédéric, journée de l'Europe, mais aussi donc des OGM, puisque nous avons une commission européenne qui, donc il y a quelques temps, c'est vrai qu'on était, c'était au moment de la grève, donc on n'a pas pu en parler. Mais 19 OGM donc autorisés en Europe, 19 nouveaux OGM, 11 pour Monsanto et 21 autres en questionnement. Il y en a un sur l'œillet, j'ai vu ça passer.
Il y a deux œillets, il y a du soja, du maïs, du coton, du soja, ça c'est le tout venant, et il y a deux œillets. Alors il faut bien préciser que ces 19 OGM ne sont pas autorisés à la plantation, ils sont autorisés à la commercialisation. Deux choses, en même temps l'Europe... finalement s'abandonne elle-même en autorisant chaque pays à autoriser ou non commercialisation et plantation. implantations sur chaque territoire, ce qui complique un peu, d'un point de vue juridique, le travail de Monsanto, BASF et compagnie. Donc, il y a à la fois, on renforce le pouvoir des pays à s'opposer à ceci, et en même temps, ben finalement, on a introduit sur le marché 19 OGM supplémentaires. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est de faire plaisir aux Américains dans le cadre de la négociation du traité de libre-échange.
Le TAFTA.
Le TAFTA.
Oui.
Derrière tout ça, on voit pas comment on pourrait continuer à assurer le consommateur que ce qu'il consomme est dénué de toute trace d'OGM. Là, c'est la porte d'entrée à toute contamination de n'importe quel produit alimentaire par ce seuil fatidique de 0,9% d'ADN modifié. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est une schizophrénie? Est-ce que c'est une duplicité? J'en sais rien. Force est de constater que les OGM sont de fait autorisés en Europe.
Bon, de toute façon, alors on n'a pas exactement non plus un commissaire européen à l'environnement. Monsieur Cagnetti, qui est donc un homme qui émanait, on avait fait un petit peu son portrait du monde du pétrole.
C'est très, pas un militant
c'est
écolo.
Pas un militant
non,
écolo.
Non, on ne peut pas dire ça.
Non, on ne peut pas dire ça. Monsieur Juncker, non plus.
Non.
Je vous ai parlé du glyphosate. On va rejoindre. J'ai rencontré donc Corinne Lepage, qui est présidente du CRIGEN. Et là aussi, donc, on avait une actualité. Quelle est l'actualité sur le glyphosate, Corinne Lepage?
D'abord, premièrement, il faut bien comprendre que le glyphosate n'est qu'une partie du problème. Pourquoi? Parce que le glyphosate, on ne l'utilise pas comme ça. On l'utilise dans un produit qui s'appelle le Roundup. Et on y ajoute ce qu'on appelle des adjuvants. Si vous voulez, pour raisonner par analogie avec la cigarette, c'est comme si vous considériez que la cigarette, c'est que de la nicotine. Ben, évidemment, non. S'il y avait que la nicotine, je dirais, ce serait pas le pire. Oui. Il y a des adjuvants qui créent l'accoutumance et qui rendent la cigarette infiniment plus nocive. C'est pareil avec le Roundup. C'est-à-dire que les études qui ont été faites, notamment par l'équipe de Gilles-Éric Serralini, montrent que les adjuvants sont 100 fois, voire 1000 fois plus actifs et nocifs que le principe actif lui-même. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, quand je dis nous, c'est le CRIGEN et beaucoup d'autres, nous voulons une évaluation du Roundup qui n'a jamais été évaluée. On n'évalue que le principe actif, le glyphosate. Alors, sur ce principe actif, donc c'est une petite partie du problème. Le CIRC, alors qui n'est pas le CIRC Pender, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, vient de sortir une étude qui est en fait une méta-étude, c'est-à-dire qui reprend toute une série d'études qui ont été faites et qui classe le glyphosate comme probablement cancérigène. Alors ça, évidemment, pas du tout plu à nos camarades de Monsanto, qui se sont permis d'attaquer le CIRC, de demander le retrait de l'étude, ben pourquoi pas, au motif que les études plus ou moins bidonnées, parce que je pense que c'est quand même largement de cela dont il s'agit, ou tout au moins partiales, n'ont pas été prises en compte suffisamment par le CIRC. Mmh. La réponse de la scientifique est cinglante, et à juste titre, et au passage, elle explique que l'organisme allemand, qui s'appelle le BFR, qui évalue les risques, et qui est chargé de l'évaluation du glyphosate depuis 1980, est composé de personnes dont 4 au moins sont en plein conflit d'intérêts, dit le CIRC. C'est quand même le CIRC qui le dit.
Hein.
Et ça pose très bien le problème, parce que sur ce sujet du glyphosate, dont je me suis beaucoup occupée quand j'étais au Parlement européen, nous avons une évaluation qui date de 1980, qui n'a jamais été rendue publique.
Ah déjà on n'avait pas les billes.
On n'a pas les billes complètes, c'est-à-dire qu'on a l'évaluation du BFR, mais on n'a pas ce qu'on appelle les données brutes. C'est-à-dire qu'on travaille toujours à partir d'évaluations, c'est un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.
C'est ça.
Hein, on n'a jamais les données brutes. Or, nous, nous battons au CRIGEN pour que les données brutes soient publiques et que chaque scientifique, de quelque pays qu'il soit, parce que ces produits-là, ils sont utilisés dans le monde entier, puisse travailler sur des données brutes, c'est-à-dire des données scientifiques incontestables qui sont celles du produit. Or, le BFR n'a jamais voulu donner ces données. La Commission européenne ne les a pas. Le gouvernement français ne les a pas. On n'a que les études du BFR. C'est
d'accord.
Tout. Et c'est sur ces études que la Commission et l'EFSA avaient donné un avis. Aujourd'hui, il y a une réévaluation qui est en cours. Alors, cette réévaluation, elle est sujette à caution pour deux choses. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle vient du BFR dans laquelle le CIRC relève des conflits d'intérêts. Donc, je pense que l'EFSA aurait singulièrement intérêt à faire réévaluer directement le produit.
On va rappeler l'EFSA au niveau européen.
L'EFSA, c'est donc l'équivalent de l'ANSES chez nous.
Ça.
C'est l'organisme qui est chargé de la sécurité sanitaire et alimentaire en Europe et qui, elle-même, a bien des problèmes de conflits d'intérêts.
Oui.
Beaucoup, beaucoup. Je me suis beaucoup battue, pas toute seule, pendant 5 ans contre cela, et ça continue. Et le deuxième problème, encore une fois, c'est que le glyphosate, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'une évaluation du produit Roundup lui-même. Mm-hmm. Quand on sait que c'est le premier polluant de nos rivières aujourd'hui, qu'on en a partout, et que si le glyphosate est probablement cancérigène, alors que dire du Roundup, qui contient des substances complémentaires qui renforcent de manière considérable la nocivité du principe actif lui-même.
Voilà, toujours donc la parole vive. Donc Corinne Lepage, présidente du CRIGEN. Frédéric, on suit aussi dans cette émission donc ces évolutions, on va dire.
Alors effectivement, elle a raison, Corinne Lepage. Ce qu'on appelle les surfactants qui facilitent l'absorption du produit par les feuilles sont 100 fois plus toxiques. Là, c'est la première fois que dans le domaine public tombe une info sur la toxicité probable, hein, pas sûr, mais probable, du glyphosate. Alors moi, je rappelle juste quelque chose, c'est qu'à 13 ans, la station marine de Roscoff a publié un travail scientifique très intéressant qui avait fait du bruit à l'époque et qui était complètement oublié, qui montrait que sur un modèle oursin, c'est-à-dire on cultive des cellules d'oursin, des cellules germinales d'oursin, des cellules sexuelles, on les fait se rencontrer avec du glyphosate. Et qu'est-ce que ces études ont montré? Qu'il y avait une augmentation très forte de la probabilité de développer un cancer parce que le glyphosate, en gros, dérègle, un, les moteurs de cette division cellulaire et deux, élimine le correctif d'une cancérisation qui est ce qu'on appelle le processus de suicide, de mort cellulaire programmée. Donc voilà, il joue sur les deux tableaux. Et voilà, 13 ans après, ben finalement, on redécouvre une évidence que le glyphosate peut être toxique. Je précise juste, Denis, qu'il est toxique avant tout pour ceux qui l'utilisent beaucoup, c'est-à-dire les cultivateurs et les fermiers, et les cultivateurs, pardon, et les jardiniers. C'est pas le cas de tout le monde. 8000 tonnes par an en France que l'on utilise. 60% du glyphosate utilisé en France, du Roundup, non pas par les agriculteurs, mais par nous autres, jardiniers du dimanche.
Voilà. Donc, on peut éviter, parce qu'on sait très bien dans cette émission qu'on peut se passer de tous les pesticides.
Absolument.
Que ce soit Baraton ou les autres, on le dit depuis déjà un certain temps, et les méthodes alternatives existent. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu plus, de temps en temps, d'huile de coude, mais ça fonctionne quand même très bien. Allez, on part en musique.
Alors, du 14 au 16 mai, donc le week-end prochain, en Brenne, à Le Blanc, au cœur du parc naturel régional. Ce sont les 13e rencontres du festival Chapitre Nature, un festival autour du livre, des sciences, de la littérature, de l'environnement. Axel Kahn, Isabelle Autissier, Gilles-Éric Serralini, Sortie Nature au rendez-vous, vous pourrez aller voir les oiseaux, les orchidées. On vous y attend. Toutes les informations sur chapitrenature.com. Réservation à l'office du tourisme. Et puis, à bientôt.
Voilà, donc c'était Chapitre Nature, ça se passe dans la Brenne, c'est très beau, c'est tout ce week-end, on l'a compris, c'était au 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur.
Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Il peut dérire aux éclats sur les tables étanches, et la bague au doigt. Allongé dans l'air. Y'a des fleurs beaucoup, des bouquets de fleurs, et des enfants courent autour du bonheur. Un orchestre fou passe la cinquième. Quelqu'un tient le bout dans son verre. Soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce dans l'air.
Allongé dans l'herbe sur France Inter, mais de l'herbe sans glyphosate, vous l'avez très bien compris. C'était donc, bien sûr, bah oui, tant qu'à faire. C'était donc Thomas Dutronc qui faisait des galipettes dans l'herbe avec qui il veut bien. Sujet très intéressant avec une femme que j'ai pu rencontrer. On était d'ailleurs dans le très beau jardin de la cité universitaire, donc à Paris. C'était donc cette semaine. Monique Barbu est secrétaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et elle nous fait le lien entre réchauffement climatique, désertification, pauvreté, migration et aussi terrorisme. Alors, c'est une des causes, ce n'est pas la seule cause, mais c'est quand même très intéressant d'écouter cette femme qui connaît ce sujet depuis longtemps.
Aujourd'hui, c'est 500 millions de petites exploitations familiales qui nourrissent 80% de la population mondiale.
Ça doit faire à peu près 1,4 milliard de personnes, mais 500 millions d'exploitations.
Exactement. Ces 500 millions d'exploitations, en moyenne, c'est moins de 4 hectares. Lorsque vous vivez avec moins de 4 hectares et que vous vivez dans des zones sèches, arides, et que vous avez 5 années de sécheresse qui se succèdent, et bien au bout de la 5e année, vous n'avez absolument plus rien. Vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de moyens de subsistance. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez d'abord vers les villes. En général, vous laissez d'ailleurs vos femmes et vos enfants dans les villages. Ces femmes et ces enfants qui restent dans les villages sont livrés à elles-mêmes, puisque ce sont des zones qui sont devenues extrêmement pauvres. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'institutions. Et généralement, c'est dans ce terreau-là que se crée la première vague d'insécurité et de création de mouvements terroristes qui peuvent infiltrer les villages, puisqu'il n'y a plus personne pour les occuper. Revenons à nos hommes qui sont partis. Ils sont partis et ils se retrouvent en général dans des ghettos par milliers et en réalité avec très très peu pour subvenir à leurs propres besoins et pour pouvoir envoyer quelque chose à leur famille. Et donc bien évidemment vient la tentation de la migration lointaine, quand ils le peuvent. Mais quand ils ne le peuvent pas, et c'était le cas par exemple de la Syrie, quand ils ne le peuvent pas, eh bien, entre 2006 et 2010, vous avez eu les 4 années les pires de sécheresse que la Syrie ait jamais connues. Cela a jeté 1 million d'hommes dans les rues des villes, qui a colludé avec 1 million de réfugiés irakiens. Tout d'un coup, vous aviez 2 millions de personnes dans les rues qui n'avaient plus aucun espoir, aucun moyen de vivre.
On pourrait, enfin, si on transfère ça à la France, mais, enfin, ce serait la révolution.
Exactement. Donc, ça a donné une révolution. Et on voit ça en Syrie. Les printemps arabes ont tous été liés au débarrage, à des questions liées aussi à l'exode rural vers les villes. Et donc ensuite, ces gens, quand ils ont eu un moyen de pouvoir quitter leur pays, ils le font. Quand vous imaginez maintenant l'argent que nous dépensons à simplement les maintenir dans des camps, eh bien, imaginez comment vous pourriez changer leur vie dans leur pays de départ. Pour vous donner une idée, pour réhabiliter 1 hectare de terre, c'est-à-dire le rendre fertile, c'est en moyenne un coût de $100 l'hectare.
Oui, le calcul est assez vite fait. Et c'est bien pour ça aussi, Monique Barbu, qu'aujourd'hui on parle de convention climat, mais il y a aussi une convention pour lutter contre la désertification. Ça, c'est vraiment, j'ai presque dit, votre enfant, enfin, vous le portez haut et fort. Et vous êtes un peu atterré quand même de voir que la désertification, elle passe gentiment à la trappe.
Oui, elle passe à la trappe, alors que en plus, lutter contre la désertification, c'est aussi le moyen le plus rapide de lutter contre les changements climatiques. Vous avez aujourd'hui 2 milliards d'hectares de terres dégradées à travers la planète. Si on restaurait 500 millions d'hectares de terres dégradées, cela permettrait d'abord de nourrir la planète à l'horizon 2050, mais surtout de capter 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc, encore une fois, 500 millions réhabilités au coût de $100 l'hectare. C'est en fait la mesure la moins coûteuse financièrement et la plus rapide qu'on ait pour séquestrer du carbone. Alors, ça n'intéresse pas grand monde. D'abord parce que les zones dégradées, largement dégradées, disons, se trouvent toutes dans des pays au sud. Ce n'est pas franchement le cas de nos pays, quoique. Et surtout, il n'y a pas d'enjeu économique en général pour des entreprises multinationales ou des choses comme ça, puisqu'il n'y a pas de technologie à vendre. La restauration de la terre, c'est d'abord du travail et surtout du travail.
Des tomates bio cultivées avec soin jusqu'à la récupération des fientes de poules pour en faire du biogaz. Ici, à la ferme Songaï au Bénin, rien ne se perd, tout se transforme. Créée il y a 30 ans par Godfrey Nzamudjo, cette ferme est devenue un véritable modèle. Au départ, juste un lopin de terre, l'exploitation s'étale désormais sur 24 hectares. Tous les produits cultivés sont transformés et distribués sur place, un concept qui génère une activité économique autonome.
On a réparé cette image de l'Afrique, l'Afrique qui tend la main, l'Afrique qui reste vraiment victime. Ça. Mais quand vous regardez les jeunes aujourd'hui, vous voyez les gens vraiment debout, les gens qui sont prêts vraiment à prendre en main l'avenir.
De retour dans les villages, les jeunes agriculteurs lancent des exploitations modernes et bio. Le concept a aussi réussi à essaimer hors des frontières du Bénin, avec l'ouverture de centres au Nigeria, au Sierra Leone et au Liberia, et des projets dans 13 autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale.
Monique Barbu, donc, si on tire une ligne quand même aujourd'hui entre Dakar et Islamabad, c'est une ligne de feu, c'est-à-dire qu'il y a des conflits partout là.
Oui, alors nous avons sorti 3 cartes, et effectivement, en gros, du Ghana jusqu'au Moyen-Orient. La première, c'est la carte de la désertification. Et vous voyez que toute cette zone est dégradée en moyenne à 50 voire 60%, c'est une moyenne, que c'est là que se sont produites toutes les émeutes de la faim et que ce sont là que sont la plupart des grands foyers de Al-Qaïda et satellites.
Alors parlez-nous aussi quand même du Nigeria. Là c'est drôlement intéressant parce qu'on a un lien entre pauvreté, sécheresse, ça on le comprend assez vite, et puis aussi ce qui s'est passé avec Boko Haram.
Une des causes, jusque dans le milieu des années 60, le nord du Nigeria faisait vivre ce pays, c'était la zone agricole, elle faisait vivre ce pays, le Nigeria était même exportateur net d'alimentation. Et puis dans les années 60 est venu le mythe du pétrole qui allait rendre tout le monde riche. Le pétrole, il est produit dans le sud du Nigeria. Et le nord du Nigeria a été laissé à l'abandon. Il y a eu quand même, entre les années 60 et aujourd'hui, des décennies de sécheresse dans cette zone.
Sans aucun plan agricole, enfin sans rien.
Il n'y avait plus d'accompagnement agricole du tout. Et c'est une zone où il y a 90 millions de paysans. Et ces 90 millions de paysans, pour beaucoup d'entre eux, ont perdu l'essentiel de leurs moyens de vie. C'est une des zones maintenant les plus pauvres du monde. C'est moins d'un dollar par jour par habitant. Et qu'est-ce qu'ont fait ces gens? Ils ont commencé à migrer. Et ils ont migré vers l'est du Nigeria, c'est-à-dire vers le lac Tchad. Le lac Tchad, je le rappelle, est partagé sur 4 pays, qui sont le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. Ils ont migré vers le lac Tchad, qui, dans le même temps, a vu sa surface passer de 25 000 km² à entre 8 000 et 1500 km² suivant les calculs que vous faites. D'accord. Une population qui a cru entre 1960 et aujourd'hui de 20 millions à 39 millions d'habitants. Et sur une zone devenue extrêmement compliquée, un afflux de migration, les gens qui ont migré du nord du Nigeria sont des paysans, c'est-à-dire eux, ce qu'ils voulaient, c'est cultiver de la terre. Les gens qui vivaient traditionnellement dans la zone sont des pêcheurs et des pasteurs.
Et pas forcément la même religion.
Pas la même religion, pas les mêmes civilisations, pas les mêmes langues, pas les mêmes cultures. Juste sur l'année 2012, alors que sur toute l'Europe, il y a eu 1,4 million de migrants d'Afrique vers l'Europe, il y a eu 7 millions de Nigérians qui ont migré vers le lac Tchad. Et donc, dans une zone qui est devenue une zone, honnêtement, de haine et d'usage de la terre, eh bien, Boko Haram a pu utiliser beaucoup de Nigérians qui étaient musulmans, qui venaient chercher des terres, a pu utiliser la colère et la frustration d'un certain nombre pour accroître, je dirais, son domaine,
rayon d'action.
Son domaine d'intervention.
Alors, en vous écoutant, on revient sur ce qui vous paraît absolument essentiel, et aussi dans cette COP21, si on souhaite arriver à atténuer, on va dire, ce réchauffement climatique, donc atténuer la misère qui va avec. Gandhi nous disait que la première des pollutions, c'était la pauvreté, c'est toujours extrêmement valable, mais donc de travailler les sols, enfin de faire quelque chose sur les sols, ce que vous nous disiez.
Oui, alors je voudrais aussi rappeler que l'accord qu'on estime pouvoir être l'accord du siècle, qui est une augmentation moyenne de 2 degrés, même si on y arrivait, cela voudrait dire une moyenne de 4 degrés en Afrique. Ça, c'est ce que dit le GIEC. Donc, les conditions de vie qui sont déjà horribles sur une grande partie du Sahel vont devenir simplement impossibles. Et donc, si on ne fait rien pour stabiliser les terres, pour amener l'eau à ces populations, c'est l'ensemble du Sahel qui sera obligé de migrer. Il n'y a pas d'autre choix que de commencer par des mesures d'adaptation qui passent d'abord par le travail sur les sols et l'agriculture familiale qui a été quand même ce qui a permis à ces sociétés d'exister et de subsister jusqu'à aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, alors on va aller vers un drame absolu d'ici 25 ans.
Monique Barbu, donc vous suivez tout cela depuis vraiment un bon nombre d'années. Vous prenez votre bâton de pèlerin diplomatique sur tous les fuseaux horaires. Comment faire pour, j'allais dire, mettre les gens dans la boucle? Je sais très bien que lorsqu'on habite à Tuvalu, que l'on habite au Bénin, que si on habite en France, les choses vont être complètement différentes. Mais pour que les gens arrivent à nous écouter sans se dire, bah, de toute façon, la Chine pollue beaucoup plus que nous, on n'y peut rien, on ne peut pas faire grand-chose, on nous demande déjà des tas de trucs. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une relative indifférence en France, il faut bien le dire.
Chacun doit essayer de voir quelle est la mesure que lui, à son niveau, peut prendre, qui va conserver quelque chose du patrimoine naturel. N'importe quelle mesure de conservation du patrimoine naturel est une bonne chose pour œuvrer justement à ce que les conditions de vie sur Terre restent acceptables pour l'humain. Nous battons pour une chose qui s'appelle la neutralité en matière de dégradation des terres, que nous avons d'ailleurs pu faire inscrire dans les objectifs du développement durable qui vont être négociés en septembre à New York. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement de dire que à chaque fois que vous utilisez un hectare de terre fertile, vous devez restaurer un hectare de terre dégradée quelque part. Peut-être que ça permettrait aussi d'éviter des drames comme Stevens. L'idée, c'est pas de dire non, on refuse le développement, c'est de dire ok, si vous voulez faire tel projet, où allez-vous restaurer le même écosystème dans votre région? Et donc, s'il y avait eu ce débat en amont sur un certain nombre d'utilisation de l'espace public, peut-être que certains drames qu'on voit aujourd'hui seraient différents.
Quelques accords de Victor Démé sur France Inter, CO2 Mon Amour, avec donc ce troisième sujet, avec la présidente, enfin l'ancienne, pardon, présidente du Fonds pour l'Environnement Mondial, donc Monique Barbu, qui s'occupe de désertification. Donc aujourd'hui, petite réaction, une fois de plus, hein, travail des sols, on l'entend très peu, ça, aujourd'hui.
Mais on l'entend de plus en plus, alors j'ai fait heureusement. Là-dessus.
Vous savez, cessons de ruiner notre sol, chez Flammarion.
Cessons de ruiner notre sol, la semaine prochaine, le Conseil économique, social et environnemental se penche sur le sujet en publiant un rapport qui dit à peu près ce que dit Monique Barbu. En fait, c'est tout bête. Les agriculteurs qui sont les premiers pauvres du monde, les pauvres, hein, ceux qui mangent pas, c'est ceux qui produisent la nourriture sur Terre. Qu'est-ce qu'ils réclament? C'est ce que disent tous les ONG. Ils réclament, une sécurité juridique qui leur permette d'être à peu près sûr que dans 15 jours, l'armée ne viendra pas les débusquer pour les chasser de leur terre. Deuxièmement, ils demandent quelques outils et quelques sacs d'engrais. C'est tout. Ils ne demandent pas d'OGM, ils ne demandent pas de pesticides, ils demandent d'avoir donc cette sécurité juridique, quelques outils, quelques sacs d'engrais. Ils demandent d'avoir accès à un marché local. Un marché local, c'est-à-dire de pouvoir vendre leurs poulets moins cher que les poulets surgelés qui arrivent d'Europe. Oui. Allez voir sur le marché de Dakar, le poulet qui vient d'Europe est moins cher que le marché local. Et puis, il demande à pouvoir accéder au marché physique par des routes goudronnées. C'est aussi bête que ça. Et ça, ça réclame pas des milliards d'euros. Évidemment, pour les politiques occidentaux, c'est moins...
moins sexy.
C'est moins sexy que de faire des grands programmes et des grandes réunions internationales. C'est juste ça. Et avec ça, comme l'a très bien dit Monique Barbu, on maintient les gens sur leur terre, en les maintenant sur leur terre, on les nourrit, on crée un marché local, et puis effectivement, on peut éviter des migrations qui peuvent aller nourrir des Boko Haram, par exemple, ou des Daesh, qui, vous savez, s'ils attirent les gens, c'est aussi parce qu'en gros, ils donnent une espèce de sécurité sociale, alimentaire, aux pauvres qui viennent vers eux. Oui. Ces gens-là poussent sur la misère.
Et on rappelle donc ce chiffre qu'elle a donné, 100 euros pour un hectare, donc c'est très peu de choses.
Voilà. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais simplement, c'est une action sur le long terme, une action qui n'est pas forcément valorisante pour les donneurs d'ordre. C'est pas du gros machin, ben c'est non. Pas de la grosse réunion, c'est juste du local. Et le problème est finalement le même en Europe, le problème est finalement le même en France. Tout en revient au sol.
Notre quatrième sujet qui va nous emmener là vraiment à l'air, on va retrouver un homme que vous connaissez. Mais ça commence par un message, 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour à tous, je suis Marie. Quand je suis arrivée à La Rochelle au mois d'avril, il y avait des lilas magnifiques. Ça sentait bon partout. Enfin, des amis m'ont fait des bouquets pour ma maison, nouvellement aménagée. Je voulais savoir l'histoire de cet arbuste, parce que je ne la connais pas. Et je ne sais pas si Jean-Marie Pelt pourrait la raconter, par exemple.
Alors, je ne sais pas, Marie, si vous êtes actuellement sur le Vieux-Port, face à la Tour Saint-Nicolas. C'est quand même très, très agréable dans cette capitale de l'Aunisque. Autrefois, Genève française, comme on disait, parce que citadelle protestante. Mais Jean-Marie Pelt va pouvoir vous répondre donc sur le lilas.
Bonjour, Denis. Effectivement, probablement de Perse, mais il s'est exporté il y a sans doute très, très longtemps en Turquie. Et il a été une fleur tout à fait symbolique et appréciée des grands sultans, et en particulier de Soliman le Magnifique, qui paraît-il l'aimait beaucoup. Il a été vu et décrit pour la première fois par un certain Pierre Belon, qui est un botaniste français, qui était le premier à découvrir les plantes du Proche-Orient et de la Terre Sainte, et qui a ramené en France les premiers platanes.
Oui, donc il a couvert les routes
non,
de
platanes. Non, c'est Napoléon.
Oui, c'est après.
Il en a planté seulement quelques-uns. Et c'est à partir de Napoléon que nos routes se sont effectivement couvertes de platanes. Alors, le lilas, il n'en a pas ramené, mais il a été ramené par un ambassadeur italien de Busbecq, qui se les est fait offrir par le fameux Soliman le Magnifique, qui était l'ami de François Ier, quand on s'est tout d'un coup amouraché des Ottomanes, à l'époque du Grand Turc, n'est-ce pas? Et il est arrivé en Europe, et en France en particulier, et il a fait une carrière extrêmement importante au XIXe siècle. Ah. Le XIXe s'est amouraché du lilas. Oui. Il a un peu décliné après ça, parce que on a considéré qu'il avait un défaut, c'est qu'il ne fleurissait pas assez longtemps. Mmh. Alors, il y avait un horticulteur qui a dit, mais c'est pas grave, comme ça, on a 11 mois pour en rêver et un mois pour le regarder.
C'est très joli, mais déjà, on était dans l'époque du toujours plus.
C'était toujours ça. Et on a fait, effectivement, toujours plus de lilas. Puisque Victor Lemoine, qui est le grand horticulteur de Nancy, au siècle avant-dernier maintenant, et au début du siècle dernier, a réussi en faisant de la sélection à produire plus de 200 variétés différentes de lilas. Oui. Et ces variétés se distinguent par deux caractères. D'abord les couleurs. La couleur lilas.
Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs ?
Lilac en persan, ça veut dire couleur mauve.
D'accord.
Donc le lilas porte le nom de sa couleur.
À l'origine, mauve, il n'était pas blanc.
Il était mauve. Oui. Et il y a des lilas qui sont blancs, il y a des lilas qui sont mauve foncé, ce que je préfère, moi, un mauve fort.
Soutenu.
Soutenu. Et puis, il a aussi développé des lilas doubles, oui, dont les fleurs ont cette fois-ci 8 pétales au lieu de 4, parce qu'il y a une étrangeté dans le lilas, c'est qu'il a une architecture florale très particulière, qui appartient aux plantes de sa famille. La grande majorité des plantes à fleurs ont 5 pétales, il n'y en a que 4. Et la grande majorité des fleurs aussi ont 5 étamines, il n'y en a que 2. Ah. Alors il y a des fleurs qui ont 3 pétales et 3 étamines, mais 2 c'est très rare. C'est caractéristique de ce groupe. Et curieusement, vous savez comment elle s'appelle cette famille ? C'est pour montrer qu'il y a des choses étranges dans la botanique. Elle s'appelle la famille des Oléacées.
Ce qui nous rappelle l'olivier quand même.
Du nom de Oléa, oui, qui est le nom de l'olivier. Alors un olivier, ça ressemble pas du tout à un lilas. Oui. Et les fruits sont extrêmement différents. Les fleurs sont toutes petites dans l'olivier. Mais elles sont construites sur cette architecture. Alors les fruits, ben les olives, tout le monde connaît, avec un gros noyau. Dans le lilas, le fruit, c'est une petite capsule sèche qui s'ouvre par 2 valves. Dans le frêne, qui appartient à cette même famille, le fruit, c'est un petit fruit sec avec une belle aile qui fait que quand le vent l'emporte, il tourbillonne. Ouais. Hein, vous voyez ça ? Les troènes, c'est une petite baie. Alors voilà une famille très étrange où il y a une stabilité absolue dans l'architecture de la fleur et la plus grande des fantaisies en ce qui concerne la nature du fruit. Voilà.
Et alors, en plus, c'est pas un arbre qui est rancunier, parce que lorsque vous le taillez parfois un petit peu mal, eh bien, il repousse quand même. Il est généreux. Quoi.
Il
est...
Oui, il a
une, il a un bon fond.
Un arbre d'une grande vigueur. Ouais. C'est peut-être ce qui a inspiré la création de la commune suburbaine des Lilas.
Oui.
Vous savez,
et la Porte des Lilas aussi.
Et la Porte des Lilas, ouais. Et vous savez que Serge Gainsbourg avait...
Poinçonneur des Lilas, mais bien sûr, je vais vous aider. Parce...
Oui. Avait épousé la cause du poinçonneur des Lilas.
On ne sait plus ce qu'est un poinçonneur aujourd'hui, donc laissez tomber.
dans une chanson célèbre.
Mais bien sûr, absolument. Voilà. Merci Jean-Marie, et à très bientôt. Au revoir Jean-Marie
Pelle. Au revoir Denis, au revoir à tous.
C'était notre page nature sur France Inter dans C'est où mon amour avec Jean-Marie Pelt. Voici un jeune chanteur, Dean Martin.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold. But gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. The same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Merci à Thierry Dupin d'avoir choisi donc ce disque sur France Inter. C'est au de mon amour. C'était donc Dean Martin et Portrait de jeune. Bah oui, bien sûr qu'on vous donne la parole. Alors vous n'hésitez pas. Hein, 01 56 40 40 32. Là aussi, vous nous écrivez sur le site parce que je vous ai déjà lancé cet appel. Donc ça arrive doucement dans les filets. Vos initiatives de jeunes et aussi des portraits. Et j'allais presque dire que c'est un peu le hasard, mais que La Rochelle aujourd'hui est à l'honneur parce qu'on a entendu donc ce message de Maryse Friboulet donc tout à l'heure. Et il y a quelques temps, donc j'animais une rencontre avec Paul Watson, avec Léa Nature, qui s'appelait Océan, mon amour. Et il y avait dans la salle cette jeune fille qui a 26 ans, qui s'appelle Lisa Kundasamy. Et son parcours était drôlement intéressant. Vous allez voir, elle est passée de l'association Planète Mer au Conservatoire du Littoral. Donc racontez-nous. D'abord, vous venez d'où ?
Ben, je viens de La Réunion. Depuis très petite, je me suis toujours intéressée au milieu marin. J'ai commencé à plonger donc, dans le lagon de La Réunion. Et puis j'ai été très sensibilisée par rapport au milieu parce que forcément quand on est petit on trouve ça joli et, oui. Puis ménager l'eau etc. Et puis je voulais faire océanographe aussi parce que comme beaucoup de petits j'ai été aussi admirative par rapport à Cousteau et ses expéditions. Puis j'ai poursuivi mes études et je me suis rendu compte que le milieu scientifique j'avais un peu du mal.
Alors qu'est-ce que vous avez fait comme études déjà quand même?
J'ai fait Sciences Po à Toulouse. Puis j'ai eu la chance par rapport à Sciences Po d'aller à l'étranger. J'ai été en Nouvelle-Zélande où j'ai travaillé pour une association qui travaillait avec les communautés du Pacifique Sud pour mettre en place des aires marines protégées. Et je me suis dit en revenant en quatrième année de Sciences Po, que c'était pas incompatible de faire Sciences Po et de travailler dans le milieu marin. Donc j'ai continué, j'ai fini Sciences Po, et puis je me suis dit quand même qu'il me manquait certaines connaissances par rapport à ce milieu-là. J'ai fait un Master 1 et un Master 2, après en expertise et gestion de l'environnement littoral, qui se trouve à Brest.
Bon, on imagine qu'il y a quand même eu du stage quelque part aussi.
Oui, donc j'ai été à Marseille, à l'association Planète Mer, sur le sujet des sciences participatives, donc qui demande aux citoyens, qui s'y connaît pas forcément de manière très scientifique, mais qui est quand même sensibilisé au milieu.
D'aller compter les oiseaux, les papillons et peut-être, je sais pas, les méduses.
Voilà. Alors, pour le coup, c'est milieu marin, donc c'est tout ce qui s'échoue aussi sur le littoral, sur les plages. Et donc, collecter un peu ce qu'on peut trouver sur le littoral et les faire parvenir à des scientifiques aussi qui peuvent récupérer ces données et en dégager des conclusions un peu sur des thématiques aussi un peu plus générales comme le réchauffement climatique peut-être.
Et demain, mais véritablement demain, ça va être long, le Conservatoire du Littoral ?
Exactement, j'ai décroché un CDD là de 8 mois, donc je serai vacataire au Conservatoire du Littoral, qui fête ses 40 ans cette année. Et qui...
On va rappeler, mais très très vite, finalement, peut-être les missions du Conservatoire du Littoral, ce sont des acquisitions qui sont faites, les acquisitions foncières, pour justement arriver à protéger ses côtes, avec d'ailleurs aussi le grand problème de l'érosion aujourd'hui.
Oui, érosion, submersion aussi.
Oui, c'est ça.
Comme les populations habitent les côtes, on est quand même très vulnérable. Et le problème, c'est que comme on n'est pas encore sur une envie de laisser aller la nature, il faut sensibiliser les gens à leur dire que la nature, elle est aussi ainsi faite et qu'il faut laisser faire.
Elle est chez elle aussi.
Elle peut nous protéger aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les Pays-Bas ont une autre culture dans ce domaine-là. On rend de la terre, et Dieu sait s'ils n'en ont pas forcément beaucoup, mais de nouveau à la nature. Comment vous vous projetez, vous, Lisa, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, avec ce monde en ébullition et avec quand même cette envie de protection et d'améliorer, de faire avec la nature et pas contre?
C'est très difficile de se projeter, mais je pense qu'il y a quand même, grâce à beaucoup de personnalités en fait, qui évoluent maintenant, grâce aux médias aussi, il y a de la sensibilisation qui se fait de plus en plus et à mon avis les actions seront grandissantes et je pense que c'est dans la nature humaine aussi de ne pas se rendre compte justement tant qu'on n'est pas mis au pied du mur. Donc le problème c'est justement ça, c'est qu'on est obligé de se prendre un coup dans la figure pour réagir et malheureusement ça se passe comme ça, mais ça veut pas dire que on ne peut pas rattraper aussi les choses derrière. Puis on a la chance aussi, peut-être à l'avenir aussi, d'avoir des politiques publiques qui vont dans ce sens. Je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant.
Est-ce qu'il y a des images qui vous restent donc de La Réunion ? quand vous étiez petite, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça en définitive, hein, et qui vous ont marqué donc, sur la nature, qui peut-être vous ont influencé.
Alors, paradoxalement, je suis sur le milieu marin, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai de La Réunion, en fait, ça reste la forêt. C'est-à-dire que la première impression que j'ai quand je rentre chez moi, c'est de respirer un grand coup et de sentir cette humidité qui vient de la forêt tropicale humide. Et pour moi, c'est quelque chose qui est là, qui est très présente. Et je suis très contente d'ailleurs qu'il y ait eu le parc national qui a été classé à l'UNESCO et qui fait que ça sera préservé parce que pour moi, c'est vraiment l'odeur de chez moi. À La Réunion, tout le monde est assez tourné vers la nature.
Oui.
Il y a toujours les épices, par exemple, qui sont très présentes. Il y a la découverte des jardins. Depuis petite, comme tout au long de ma scolarité, souvent on nous emmène en forêt découvrir en fait, notre patrimoine naturel. Et ça, c'est quelque chose qui est cultivé en fait, de petit jusqu'au lycée.
Oui.
Et on nous sensibilise sur la côte comme jusqu'au volcan. Et on nous fait découvrir notre patrimoine naturel et ce pourquoi notre île est particulière et qu'il faut la préserver en fait.
Portrait de Linda Kundasamy, donc 26 ans. Bon, elle est sauvée, on va dire, Frédéric.
Oui,
on voit bien que.
Voilà. Oui, elle est bien, cette fille.
Bah, elle est très bien. Alors, n'hésitez pas, hein, dénoncez-vous, vous aussi. Pas de problème, hein, sur soit un mail, sur le site de CO de Mon Amour, franceinter.fr. Vous n'hésitez pas une seconde. D'ailleurs, merci aussi à Anne Bouzon qui a nourri les sites de CO2. Alors, nous avons lancé une nouvelle rubrique. Ça va s'appeler L'idée à la con de la semaine.
Et celle-là, les belles, Denis. Je l'ai dénichée en Moselle. Oui. Alors, Denis, le sanglier, c'est pas bien. Le sanglier qu'on élève. Non. C'est encore moins bien qu'on élève pour le chasser. C'est pas bien du tout parce que ça énerve les agriculteurs, parce que ça arrache tout, ça soulève tout. Donc, la Fédération départementale de chasse de Moselle a sorti un projet qu'on ne fait plus, une espèce d'archaïsme dans le monde de la chasse.
Bah,
donc, le sanglier, c'est pas bien. Donc, pour le bonheur des chasseurs, on remplace le sanglier par le faisan d'élevage, galinette cendrée du sketch des inconnus. Mais pour que le faisan d'élevage puisse vivre, il faut supprimer les renards. Donc, on tue les renards, mais puisqu'il n'y a plus de renards, il y a des campagnols.
Et comme il y a des campagnols, qu'est-ce qu'on va mettre à la place?
Eh ben, un anti-campagnol qui s'appelle le bromadiolone, une cochonnerie épouvantable, qui...
C'est un anticoagulant, en fait.
C'est un anticoagulant, et donc, qui risque de faire peser un gros risque sur les rapaces qui viennent ensuite manger, ou les renards qui auraient échappé à l'enfumage, qui risque de faire poser un gros risque sanitaire sur les rapaces qui viennent ensuite manger les campagnols. Donc voilà, 9000 faisans d'élevage sur 10 000 hectares, 160 communes, c'est n'importe quoi, c'est une idée tellement bête qu'elle me fait sourire.
Bon, et donc, ça veut dire qu'il y a un léger déficit de biologie, de compréhension d'un écosystème. C'est un peu
c'est,
ça.
C'est n'importe quoi. Ils ont payé leur licence, donc ils veulent tirer sur des faisans d'élevage qui viendront manger dans leurs mains.
Bah oui, ce sont des cocottes.
Des cocottes. Voilà, ça s'appelle. Exactement, ce sont des cocottes.
Ce sont des cocottes. Merci beaucoup, cher Frédéric. Et... Vous reviendrez non pas avec un faisan d'élevage, mais avec d'autres informations.
Un sanglier.
Oui, vous avez raison. Dans le studio, ça va être très bien. Ça va faire genre. Ça va être parfait. Merci beaucoup. Donc à Caroline Debray, notre assistante, à Christophe Imbert, qui a colorié l'émission, Éric Mainviel et Philippe Duclos à la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, ah oui, ça va être très bien, je vais être avec l'astrophysicien Trinh Xuân Thuan. On va parler à la fois de spiritualité, d'astrophysique et d'écologie. Donc avec lui, on retrouvera Jean-Marie Pelt et Philippe Desbrosses. 01 56 40 40 35, vous connaissez le numéro du répondeur. Et puis demain, allez avec vos petits loups. Hein, la tuile du bon petit loup, 19h54, bien sûr.